Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Margot Leridon, mais aussi Mélanie Chalandon, Bertie Bourdon et Nicolas Sendé, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Julien Calvas. Dernier temps de notre série consacrée aux États-Unis face à des élections hors normes. Après avoir évoqué lundi l'extrême polarisation du débat politique, mardi l'exacerbation des tensions raciales vers un point de non-retour et puis hier la diplomatie selon Donald Trump, intéressons-nous à ce qui pourrait être le nerf de la guerre lors de ces élections de novembre, l'économie.
J'ai imposé des droits de douane à la Chine et nous avons fait rentrer des dizaines de milliards de dollars que j'ai distribués aux agriculteurs parce que les agriculteurs étaient visés par la Chine. Tous les autres présidents laissaient la Chine faire ce qu'elle voulait. Nous perdions 200 millions à 500 millions de dollars au profit de la Chine par an. Pensez-y. Nous avons de grands pouvoirs que les autres n'ont pas. Nous avons une énorme capacité d'emploi et je pense que ce qu'il va se passer, c'est que l'année prochaine va être l'une de nos meilleures années. Je pense qu'il y aura une transition au troisième trimestre, le quatrième trimestre sera bon et le suivant sera incroyable.
Donald Trump sur Fox News en mai dernier. Donald Trump qui veut y croire. Alors certes, les États-Unis traversent une grave crise économique du fait de la pandémie de Covid-19, mais ils se redresseront vite et bien sous l'effet d'une politique protectionniste offensive qu'il continue de défendre de meeting en interview. Difficile pourtant de tirer un bilan de l'America First, son slogan de campagne de 2016. Si l'emploi est resté tout au long du mandat sur la tendance ascendante qu'il avait déjà lors du départ de Barack Obama en 2016, le chômage a lui explosé à la suite du confinement, privant des dizaines, des centaines de milliers d'Américains, non seulement de leur travail, mais également de leur couverture santé, voire de leur logement. Dans le même temps, les inégalités, elles-mêmes déjà très élevées à l'arrivée au pouvoir du président conservateur, ont continué de se creuser, notamment au détriment des minorités raciales. La doctrine économique de Donald Trump pourra-t-elle survivre à la crise du Covid ? Le président sortant a-t-il répondu aux attentes des classes moyennes inférieures victimes de la désindustrialisation qui furent au cœur de son électorat en 2016 ? Dans quelle mesure est-il lui-même responsable d'une situation qui, des bons chiffres de l'emploi en phase pré-Covid à l'aggravation des inégalités, s'inscrit dans la droite ligne de ce qu'avait laissé son prédécesseur ? Et d'ailleurs, quel est l'état de cette économie, l'état économique et social du pays à 47 jours maintenant du scrutin? Pour évoquer toutes ces questions, on a invité ce matin d'abord Christine Zumello. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeure de civilisation américaine à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Avec nous également Thérèse Rebière. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous également, maîtresse de conférence en économie au CNAM et chercheuse au Centre d'études de l'emploi et du travail. Alors, traditionnellement, l'économie, c'est l'enjeu numéro un pour l'opinion américaine dans les élections. C'est traditionnellement là-dessus que se jouent les élections présidentielles. C'est en tout cas ce qu'on dit souvent. Sauf qu'évidemment, cette année, c'est peut-être pas une année comme une autre, peut-être pas une campagne comme une autre, puisqu'elle se déroule dans un contexte, on l'a vu tout au long de la semaine, tout à fait inédit, avec une crise sanitaire mondiale qui, en réalité, a mis toutes les économies du monde à terre, et donc en particulier l'économie américaine. On a un climat du côté des États-Unis qui est absolument délétère, on a l'occasion d'en parler plusieurs fois cette semaine, avec des violences policières qui ont remis au centre de l'attention cette question des tensions raciales, avec des milices d'extrême droite qui, en retour, n'hésitent pas à sortir dans la rue, armée, a tué deux personnes, comme on l'a vu avec ce jeune Kyle Rittenhouse qui a tué donc deux personnes venues manifester en soutien au meurtre de Jacob Blake tué par des policiers. Compte tenu de ce contexte, on va commencer avec vous, Christine Zumello. Que va peser l'économie dans la prochaine présidentielle? Est-ce qu'il sera l'enjeu principal, essentiel, comme c'est traditionnellement le cas dans les autres campagnes, ou ça risque d'être un peu différent?
Vous avez d'abord tout à fait raison de souligner qu'on vit une période vraiment sous très haute tension aux États-Unis, que l'élection présidentielle c'est dans un mois et demi, donc c'est vraiment demain, c'est très très proche, qu'il y a toute une série de tensions que vous avez rappelées dans votre introduction, sociales, politiques, qui là ont explosé de façon vraiment tout à fait radicale encore récemment, avec en toile de fond, si j'ose dire, mondiale, la crise sanitaire, la crise du Covid, qui touche aussi de plein fouet les États-Unis. Donc l'économie, ça reste le cheval de bataille de Trump. Effectivement, c'est peut-être ce sur quoi il essaye de raccrocher tout son programme, qui est assez flou, qui reste quand même très flou et très ancré sur des grands slogans. Il essaye de continuer à dire que c'est America first, America again, le retour de l'Amérique, le retour de la Grande Amérique. Donc c'est vraiment des choses dont on va parler aujourd'hui, j'imagine.
Mais est-ce que vous pensez que du côté de l'opinion, ça sera toujours le sujet numéro un et que c'est ça qui va jouer dans le scrutin ?
Alors, il y a un point important qui est la notion du chômage aux États-Unis, bien sûr. Et donc, aux États-Unis, être au chômage, ça ne peut pas dire la même chose qu'en France. Il y a un certain nombre de grandes difficultés, de grandes précarités, de grandes fragilités qui sont dues au système de protection sociale, à l'assurance santé aussi aux États-Unis, qui est beaucoup plus aléatoire, beaucoup plus difficile dans certains cas à obtenir qu'en France. Donc, être au chômage aux États-Unis, ça peut être beaucoup plus grave que ça ne l'est, par exemple, en France. Donc, c'est pour cette raison en particulier, aujourd'hui, que Trump continue à dire que ce qui peut sortir l'Amérique et les Américains, et donc lui reconquérir une partie de l'opinion qui peut-être lui ferait défaut, c'est de remettre l'Amérique au travail. Donc c'est vraiment son cheval de bataille.
Thérèse Rebière, sur cette question de l'économie, il y a quelque chose qui est assez frappant, c'est qu'on a à la fois une économie qui est aujourd'hui à terre aux États-Unis, et en même temps, il semble que Donald Trump soit toujours celui qui est considéré par les Américains, en tout cas par la majorité des Américains, comme le mieux placé précisément pour la redresser. On essaiera tout à l'heure de faire un bilan, ce qui est très difficile, pré-Covid, avant la crise sanitaire, de l'action économique de Donald Trump. Il n'empêche que quand on regarde les sondages, on a une situation où à la fois il est distancé par Donald Trump, et en même temps, c'est lui qui apparaît comme le mieux placé pour redresser l'économie. Qu'est-ce qui forge cette conviction dans l'opinion américaine ?
Donc effectivement, il est actuellement distancé par Joe Biden dans les enquêtes d'opinion. Toutefois, les enquêtes d'opinion aux États-Unis ne donnent pas forcément le résultat des élections présidentielles. Donc ça, c'est un point important à prendre en compte. Alors on a dit tout à l'heure, effectivement, le bilan économique intérieur aux États-Unis, mais c'est également vrai en France et dans une grande partie des pays européens, c'est ce qui compte le plus lorsqu'un candidat commence à monter son programme. Et alors là, c'est assez intéressant parce que, effectivement, il faut dissocier, vous l'avez bien dit, il faut dissocier le bilan économique qu'on avait au début de l'année, en janvier 2019, de celui qu'on a maintenant. Donc on pourra éventuellement parler tout à l'heure du bilan de 2019, mais ce qui est intéressant, c'est que dans les enquêtes statistiques, on ne connaît pas exactement avec précision. Alors on connaît les chiffres de l'emploi, on connaît l'emploi indemnisé. En revanche, la croissance, on ne la connaît pas. Donc ça donne aussi une possibilité à Donald Trump de broder autour de ces thématiques.
Justement sur l'emploi, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu, parce que on a lu beaucoup de chiffres là-dessus. On a parlé de 20 millions d'emplois qui avaient été détruits dès le mois suivant l'explosion de la crise. Avril, 20 millions d'emplois détruits, et puis progressivement on a commencé à recréer des emplois. Il y a eu 2,7 millions d'emplois créés en mai, 4,8 millions en juin. On se dit que à ce rythme-là, ça va aller très vite. On va très vite retrouver les rythmes de le niveau d'emploi d'avant la crise. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que le rythme baisse un peu ?
Non, effectivement, c'est tout à fait le cas. Si vous regardez les chiffres du mois d'août, on a un taux de chômage qui est inférieur à 8,5%. Donc on est en dessous du taux de chômage que l'on avait à la fin de la crise des subprimes. Donc de ce point de vue-là, c'est un bon point pour Donald Trump, et ça donne du grain à moudre à l'intervention que vous avez eue en début d'émission, dans lequel il dit bientôt ça va aller très mieux et très vite. Alors c'est vrai, mais c'est pas spécifique à Donald Trump, c'est spécifique au fonctionnement du marché du travail aux États-Unis. Donc là, il faut revenir sur une distinction. Alors si on compare avec le marché du travail français, les emplois en France ne peuvent pas être détruit de façon simple. Détruire un emploi, c'est pouvoir justifier éventuellement d'un licenciement économique, par exemple. Aux États-Unis, c'est très différent. Donc, il y a cette notion de employment at will. Le fait que, alors, si on traduit directement, ça veut dire emploi à volonté. En réalité, ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut dire simplement que un salarié peut quitter son emploi quand il le souhaite, et un employeur peut rompre son contrat avec son salarié quand il le souhaite.
Oui, il y a une flexibilité qui est beaucoup plus grande.
Donc, il y a une flexibilité qui est immensément plus grande. On estime qu'il y a à peu près encore, donc c'était il y a une dizaine d'années, mais ça n'a pas dû énormément changer depuis, il y avait encore deux tiers des contrats qui étaient vraiment uniquement des contrats employment at will. Et donc, cette flexibilité, elle va à la hausse comme à la baisse. C'est-à-dire que quand on a un choc économique, comme on a eu lors de la fermeture des États et des confinements total ou partiel, eh bien, les entreprises étaient incitées à complètement licencier leurs salariés pour des motifs divers et variés. Mais en revanche, ces mêmes salariés ont été en partie réembauchés dès lors que l'économie a réouvert.
Alors, il y a évidemment, Christine Zumello, ce que décrit Thérèse Rebière, c'est-à-dire une extraordinaire flexibilité. Donc, on peut se réjouir de tout cela. Quand on regarde effectivement les chiffres, on a un chômage pour le mois d'août qui était à 8,4%, alors qu'au mois de juin, il était à 11%. Donc, on voit la vitesse à laquelle on est en capacité de créer de l'emploi. Mais en même temps, j'aime faire l'avocat Donald Trump, il y a eu aussi des mesures qui ont été prises suite à la crise sanitaire et qui, peut-être, ont aussi joué dans cette belle dynamique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots les principales mesures qui ont été prises? Il y a eu un premier paquet, il y en a un autre qui est bloqué, mais peut-être qu'on en parlera, mais il y a eu un premier paquet, 2000 milliards de dollars, un plan très important. Est-ce qu'on arrive un peu à mesurer les effets de tout ça aujourd'hui, Christine Zumello?
Oui, effectivement, il y a eu deux... Alors, un paquet qui a été effectivement voté par la Chambre et le Sénat au printemps, donc au plus fort de la crise, lorsqu'on était tous confinés, complètement stupéfaits. Il y a vraiment un effet de stupeur très très grand dans cette crise. Et Thérèse Rebière a parfaitement raison de rappeler la question de la flexibilité qui évidemment joue dans les deux sens, à la hausse et à la baisse, en ce qui concerne l'emploi aux États-Unis. Alors, il y a un deuxième paquet, comme vous le dites, qui est à l'étude, qui a passé la première étape. La première barrière de la Chambre et qui est en train d'être examinée à la loupe par le Sénat. Et donc il y a une espèce de discussion un petit peu difficile qui n'est pas nouvelle, qu'on appelle une grande polarisation aux États-Unis. C'est un terme qui revient très 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 souvent, qui remonte à loin. Donc opposition démocrate-républicain. Le Sénat est encore dominé par les républicains et la Chambre est aux mains pour l'instant des démocrates. C'est aussi un des enjeux de l'élection à venir.
Et ce sur quoi on bute en particulier, c'est la question du prolongement de l'allocation chômage. C'est
exactement
ça le point qui pose problème.
Exactement. C'est non seulement le prolongement de l'allocation chômage, mais aussi, donc c'est-à-dire ira-t-elle au-delà de janvier 2021, c'est-à-dire ira-t-elle en gros au-delà de l'élection présidentielle, puisque on souhaite garder un point d'interrogation sur son résultat, et aussi son montant, c'est-à-dire est-ce que c'est 400 dollars en plus, est-ce que c'est 600 dollars en plus, donc évidemment, 200 dollars c'est quelque chose qui peut faire une différence, c'est 30% de plus en gros, ou 30% de moins.
Sachant qu'il faut rappeler aussi qu'on est dans un État fédéral et qu'en réalité, tout n'est pas versé au niveau fédéral, qu'il y a une bonne partie qui est versée aussi au niveau de chaque État.
Oui, peut-être en deux mots pour rappeler ça aussi, la durée d'une allocation chômage aux États-Unis, c'est en gros 5 ou 6 mois, suivant l'État dans lequel on habite. Et dans certains États, c'est moins. Donc c'est une période qui est assez courte.
5 ou 6 mois, on y est justement là, Thérèse Rebière, parce que peut-être que la nouvelle menace qui pèse sur l'économie américaine, c'est la fin massive justement de ces allocations chômage. Il y a beaucoup de gens qui vont ne plus en bénéficier, donc la consommation va s'effondrer et la situation pourrait devenir absolument catastrophique. C'était le sens d'ailleurs d'une tribune qui a été publiée récemment dans le New York Times par le prix Nobel d'économie Paul Krugman, qui mettait justement en garde contre la très grande récession à venir. C'est ça qu'il utilisait, la très grande récession à venir. C'est ça sa formule.
Oui, alors...
Le pire est devant.
Le pire est devant. Alors, c'est peut-être vrai, c'est difficile de l'affirmer. On avait, au mois de mai-juin, on avait des études qui nous indiquaient que la croissance américaine allait baisser de 8%, et peut-être seulement de 4% si le deuxième plan de relance finissait par aboutir. Alors néanmoins, sur la partie du plan de relance, ça fait quand même 3 mois qu'il est en discussion. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine résistance à faire passer ce plan de relance en raison de la polarisation.
Ça veut dire qu'il ne passera pas pour le moment.
Alors c'est difficile à le savoir, enfin c'est difficile de le savoir parce que c'est vrai que l'administration de Donald Trump a réussi à faire passer certaines réglementations, parfois en biaisant sur des aspects juridiques.
Il a signé des ordonnances, en l'occurrence.
Oui. Oui.
Alors, il prévoit le gel des charges salariales, une allocation chômage prolongée de 400 dollars par semaine, des protections pour les locataires menacés d'expulsion, un report du remboursement des emprunts étudiants.
Oui.
Ce qui est quand même assez social pour un...
Oui,
président conservateur.
C'est juste. Alors c'est juste, après effectivement ça c'est les mesures qui sont prises au niveau fédéral. Après, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a leur application au niveau des États, puisque dans la plupart des cas c'est les États qui mettent en œuvre les mesures. Et donc là, les États américains ne sont pas du tout homogènes dans leurs réponses. Donc il y a certains États qui ont plus de facilité à les mettre en place et d'autres dans lesquels la mise en place est très difficile. Donc il y a des annonces qui sont faites au niveau fédéral. Et puis dans les faits, en réalité, eh bien, par exemple, l'accroissement des allocations chômage de $600 qui avait été prévu par le premier plan a eu énormément de mal à être mis en place dans certains États, notamment en Floride.
Quels sont les États, justement, Christine Zumelo, qui ont été particulièrement résilients? On va s'intéresser dans quelques instants aux États où, où ça a été particulièrement difficile. Je parlais tout à l'heure des inégalités, c'est vrai qu'elles se sont considérablement accrues, et pas seulement depuis la crise du Covid, mais les États particulièrement résilients aux États-Unis, c'est lesquels ?
Alors, j'ai peut-être envie de commencer par les États les plus touchés. C'est les États dans lesquels, bien sûr, il y a beaucoup d'industries qui sont liées à la entertainment, pour utiliser ce terme anglais, donc le tourisme, l'industrie hôtelière, restauration, etc., qui sont bien évidemment des... Donc, la Floride est touchée de ce point de vue-là, la Californie, New York, en tant que ville, a été extrêmement touchée, mais ce sont aussi des États dans lesquels les inégalités sont fortes. Donc, il y a une frange de revenus élevés qui, évidemment, a été moins touchée. Donc c'est des États qui ont été très touchés, une population donc fragilisée et précaire qui a encore plus été touchée que d'autres. La restauration, l'hôtellerie, ce sont des industries dans lesquelles il y a beaucoup aussi de personnel précaire. On a évoqué auparavant la difficulté parfois de personnel sans papier, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont quand même sous le radar qu'aujourd'hui, on ne peut pas exactement quantifier. Donc, je crois qu'il faut rester très, très prudent sur ces chiffres précis.
What we've seen is a lot of members of our community losing their job.
Ce que l'on constate, c'est que les gens n'ont plus de travail. Il y en a beaucoup qui ont perdu leur emploi. Alors, on essaie de les aider à se nourrir. Comme ça, ils n'ont pas à dépenser de l'argent pour faire des courses au supermarché. Ils peuvent garder leur argent pour les médicaments ou pour payer leur loyer.
As much as we can, the food insecurity in our community.
Voilà Daniel Bonnet, directeur du New Rochelle Cap Center, qui s'exprime sur les ravages économiques liés à ce confinement au micro de France 24. Récemment, il y a un grand réseau de banques alimentaires du pays qui s'appelle Feeding America qui révélait que d'ici la fin de l'année, on pourrait avoir 54 millions de personnes qui seraient confrontées à l'insécurité alimentaire aux États-Unis. J'ai été absolument effaré par ce chiffre. Alors, vous disiez à l'instant, juste avant qu'on diffuse justement ce petit sonore, qu'il fallait se méfier des chiffres, mais enfin, sur une population de 328 millions d'habitants, ça fait quand même 17% de la population. C'est ça la situation des États-Unis de demain, Thérèse Rebière, c'est-à-dire quasiment 20% de la population qui peine à se nourrir?
Alors, oui, c'est intéressant ce que vous mentionnez, parce que vous indiquez un chiffre de 17% de la population qui pourrait faire appel à cette banque alimentaire. Et du coup, il faut rappeler le pourcentage de la population américaine qui est en dessous du seuil de pauvreté. Et donc là, selon les ethnies, vous n'êtes pas logé à la même enseigne. Donc, on avait de très très bons chiffres, et donc c'est des chiffres du Census Bureau qui ont été publiés il y a deux jours, qui nous indiquaient qu'à la fin 2019, la part de la population qui était en dessous du seuil de pauvreté n'avait jamais été aussi faible aux États-Unis, avec une moyenne de 10%. Donc 10%, c'est quand même déjà beaucoup. Après, vous avez des différences au niveau des minorités ethniques. Et là, vous vous rendez compte que déjà dans la population afro-américaine, on est plutôt aux alentours de 18%. Donc vous mettez ça en parallèle avec la volumétrie de personnes qui peut accéder à la banque alimentaire, et en réalité, on est bien dans cette amplitude-là.
Là, il y a vraiment un paradoxe, Christine Zumelo, qui dit beaucoup du fonctionnement de cette économie américaine. C'est-à-dire qu'effectivement, durant le mandat de Trump, en réalité, le niveau de pauvreté a plutôt reculé pendant ces 4 années. Et dans le même temps, les inégalités, elles, se sont accrues. D'abord, est-ce que la tendance existait avant l'arrivée de Donald Trump, ou est-ce que c'est aussi son arrivée qui a participé à ce phénomène-là? Et plus généralement, qu'est-ce qui fait qu'aux États-Unis, on peine autant à faire fondre un peu ces inégalités?
Alors, je voudrais peut-être aussi rappeler qu'il n'existe pas de RSA aux États-Unis. Donc, c'est quelque chose qui pourrait servir à cette frange de la population extrêmement fragilisée, extrêmement précaire. C'est une tendance, comme vous le disiez, donc d'augmentation, de creusement des inégalités. Donc, évidemment, par le bas et par le haut, qui existait avant l'arrivée de Donald Trump. C'est ce qu'on appelle aussi de façon plus générale l'effondrement, la disparition de la classe moyenne aux États-Unis, qui est quelque chose sur laquelle la consommation d'après Seconde Guerre mondiale a été largement fondée. Donc cette fonte, cette dilution de la classe moyenne, c'est quelque chose qui évidemment a alimenté la précarisation plus grande de ce qu'on appelle une frange vraiment au bas de l'échelle. Donc c'est ça aussi sur lequel se base Donald Trump aujourd'hui pour dire nous avons besoin de remettre sur le devant de la scène le rêve américain, l'American Way of Life. C'est ça qui a fait ce que l'Amérique est aujourd'hui. Et évidemment, c'est sortir donc une frange de la population de la précarité. Je voudrais aussi dire que il y a toute une frange de la population aux États-Unis qu'on appelle les unbanked, donc des gens qui ne sont pas dans les circuits visibles.
En dehors des réseaux bancaires.
En dehors des réseaux bancaires. Donc lorsque l'on connaît l'importance du crédit aux États-Unis, lorsqu'on connaît la nécessité dès le plus jeune âge, là vous parliez des prêts étudiants tout à l'heure, dans les aides qui ont été apportées par le Congrès, dès 18 ans, voire peut-être dans certains États un peu avant, il faut s'endetter de manière à pouvoir avoir une histoire de crédit, une identité financière. Donc c'est quelque chose qu'en France on connaît pas ou peu. Et donc ça, c'est vraiment des points absolument fondamentaux qui tracent un petit peu votre évolution économique, financière dans la vie aux États-Unis, qui font en sorte que vous ferez partie du rêve américain, vous ferez partie de American Way of Life, si vous avez de l'argent à dépenser ou pas. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a vraiment un très très grand point d'interrogation, encore, puisqu'on est encore dans l'œil du cyclone, pour savoir quelle est l'évolution et la rapidité de la détérioration aussi.
Thérèse Rebière, je vois que vous levez votre crayon, je vais vous laisser réagir, mais je voudrais qu'on en vienne à la question sur laquelle, évidemment, tout le monde se penche partout aux États-Unis, mais bien au-delà. C'est la question du bilan économique de Donald Trump, mais on va se placer justement avant la crise sanitaire, parce que il y a beaucoup de choses qui s'est dit. Alors, on sait qu'il avait prévu, Donald Trump, de largement s'appuyer sur les excellents résultats, parce que c'est vrai que les critères étaient globalement ouverts, mais il y a beaucoup de voix, beaucoup d'observateurs qui disaient, en fait, attention, tout ça est un trompe-l'œil assez largement. Il y a aujourd'hui plus de marge de manœuvre pour faire progresser l'économie, et si on avait un problème, on ne saurait plus quoi faire. Le bilan de l'action économique de Donald Trump, pré-Covid, quel regard vous portez dessus ?
Alors ça tombe bien parce que c'est exactement là-dessus que je voulais rebondir.
Alors, ça tombe bien, on va gagner du temps.
On va gagner du temps. Effectivement, si vous vous intéressez un petit peu à l'économie sous Barack Obama et puis qu'après vous regardez ce qui s'est passé sous le premier mandat de Trump, vous constatez qu'en réalité, la croissance économique américaine, elle est repartie à la fin de la crise des subprimes. Et puis, on a une tendance qui est assez régulière. Donc il n'y a pas de cassure de tendance, la tendance est la même. Donc l'économie américaine, depuis 2010, a commencé à aller de mieux en mieux. C'est vrai s'agissant du PIB, c'est vrai également s'agissant du taux de chômage. Donc on était environ à 10% à la fin de la crise des subprimes, et puis progressivement le taux de chômage il baisse. On est au moment des dernières élections, donc on est à 4,6%. En janvier on était à 3,5%. Donc en fait on est sur une tendance qui n'a fait que se poursuivre. Et alors là, c'est quand même assez intéressant parce qu'en 2016, alors c'était très vrai pour Trump, mais c'était vrai aussi pour Hillary Clinton, les deux ont fait une campagne en disant il nous faut davantage d'emplois, il faut mettre en avant l'emploi. Ce qui compte aux États-Unis, c'est l'emploi. Et Donald Trump disait c'est le premier problème aux États-Unis. Alors qu'en réalité, ça n'était pas le premier problème aux États-Unis puisqu'on était déjà à un chiffre qui était proche du plein emploi. Du quasi plein emploi. Alors certes, il y a des disparités au niveau des États, donc ça oscillait entre 2% et 7%, mais en réalité, on y était déjà. Donc la campagne, elle portait pas sur le volume des emplois, elle portait sur la qualité des emplois. Donc Donald Trump disait, ce qu'il nous faut, ce sont de bons emplois qui sont bien payés, et il faut également ramener sur le sol américain les emplois manufacturiers qui sont partis en particulier en Chine.
Et justement, de ce point de vue-là, est-ce qu'il y est parvenu ? Parce que c'est vrai que c'était une de ses priorités, faire revenir, relocaliser.
Alors, sur les relocalisations, alors d'une manière générale, parce que du coup, là, on repart sur la géopolitique américaine et sur la crise sino-américaine.
Mais on est en plein dans l'économie américaine.
Tout à fait, aussi. Exactement. Et donc, sur ce point-là, alors là, la crise sanitaire, en fait, vient interrompre un process qui fait que savoir s'il y a eu des relocalisations, c'est assez difficile. Parce que la guerre économique a commencé en 2018, donc 2018-2019. Sur deux ans, on ne relocalise pas un volume massif d'emplois. En revanche, la guerre économique, elle a bien eu lieu. Et avant la crise sanitaire, on en voyait certains effets. Donc il y avait des secteurs qui étaient davantage marqués sur le sol, sur le territoire américain. Donc des effets un peu pervers. Donc les effets pervers, ça a été sur l'agroalimentaire, en particulier dans le secteur du soja, puisque il y avait 8% des exportations américaines qui étaient à destination de la Chine, qui concernaient le soja. Brutalement, à coup de tarifs douaniers, la Chine a dit « Moi, de toute façon, je vais vous les tarifer tellement que vous n'allez pas pouvoir me les importer. » Et puis, il y a eu également des effets négatifs dans des secteurs, le secteur de l'habillement. Donc des entreprises, alors que ce soit des grandes enseignes ou des petits magasins, qui faisaient importer soit directement les vêtements de Chine, soit les matières premières, et puis qui ont dû rogner sur leurs marges d'une façon ou d'une autre. Donc il y a des anecdotes comme ça où un petit magasin qui disait moi en fait je produis à San Francisco, mais bon à San Diego, mais je fais venir mon tissu de Chine, résultat ça me coûte plus cher et donc je vends des pantalons mais ils ont une poche en moins. Donc c'est une anecdote mais qui démontre qu'effectivement il y avait un coût. Et puis d'autres petits magasins ont dit nous on augmente nos prix.
Christine Zumello, quel regard vous portez-vous sur le bilan économique de Donald Trump? Toujours pareil, on se positionne avant la crise sanitaire.
En fait, j'aurais envie de dire que Trump a intérêt à parler de l'économie. C'est vraiment son intérêt de mettre ça en avant, de faire un flash très fort sur l'économie, parce que ça lui permet aussi de masquer toute une série d'autres difficultés que vous avez abordées dans des émissions précédentes, qui sont les tensions raciales, les questions raciales, les questions aussi de la solidité, la remise en cause des institutions américaines, de la qualité de la démocratie aux États-Unis. Et donc, en particulier, tout le monde maintenant a oublié, dirait-on, la question de son impeachment, de sa destitution, de l'hiver dernier.
On pourrait vous dire l'inverse, Christine Zumello, on pourrait vous dire que précisément la guerre culturelle aux États-Unis, elle profite d'une certaine manière politiquement à Donald Trump. C'est bien lui qui avait mis l'accent sur ces sujets-là, sur la question de l'immigration par exemple en 2016, et ça lui a réussi. Donc en réalité, ce sujet-là le porte politiquement.
En fait, il avait mis l'accent surtout sur le fait que c'est un outsider, que c'est quelqu'un qui n'est pas dans le sérail, qui n'est pas à Washington, anti-système, ce qu'il a continué d'ailleurs, il a été tout à fait cohérent par rapport à cette ligne qu'il affichait, mais aujourd'hui, bien sûr, avec 4 ans de mandat, il n'a pas le même adversaire en face de lui. Joe Biden n'est pas Hillary Clinton à bien des égards, et en particulier, il est moins abrasif qu'Hillary Clinton, donc il a moins prise aussi par rapport aux joutes, au style extrêmement colérique de Donald Trump.
Mais si on met de côté le côté instrumentalisation du thème économique, le bilan que vous faites, vous, de son action économique, parce qu'il a quand même fait des choses, il y a les indicateurs, mais il y a aussi toute une série de décisions, par exemple en termes de fiscalité. Il a énormément baissé la charge sur les entreprises. Bon, c'est quand même quelque chose qui a dû avoir de l'effet. Il a fait beaucoup de choses.
Tout à fait, donc ça c'est... Thérèse Rébière le rappelait, effectivement, avant le début de la crise du Covid, le taux de chômage était bas aux États-Unis, mais il a été bas précédemment sous d'autres administrations. Donc, Trump n'est pas le premier président américain qui réussit à faire baisser le taux de chômage. En tout cas, le rapport à le ramener à des niveaux extrêmement faibles, qui sont 4%, 3,5%, entre 3,5% et 4%. Ce qui, effectivement, pour des niveaux européens, c'est absolument incroyable, et ça fait rêver. Donc aujourd'hui, ça tourne autour de 8%. Et c'est donc le double. Donc ce qu'il arrive aussi à faire aujourd'hui, c'est de se dédouaner des difficultés économiques qu'il fait reposer sur la situation sanitaire.
Alors il y a autre chose sur laquelle il s'est assez largement appuyé, c'est la bonne santé du système financier de la bourse. Ces dernières semaines, cette bourse américaine, elle s'est montrée absolument resplendissante. Il y a quelques jours encore, Wall Street a battu un nouveau record, ce qui a provoqué l'euphorie de Trump. Il a tweeté, je cite exactement son tweet, « Le Dow Jones vient de clôturer au-dessus des 29 000 points. point, comme vous avez de la chance de m'avoir comme président, avec Joe Biden. Alors ça, c'est la petite pique à Joe Biden pour rappeler qu'il fait campagne sans aller sur le terrain pour des raisons sanitaires. Donc, avec Joe Biden, ce serait le crash, disait-il. Sauf que, en réalité, dès le lendemain, le fameux Dow Jones, il a baissé de quasiment 3%. Et que le Nasdaq, lui, baissait de 5% d'un coup. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord comment comprendre que la bourse, connaisse à la fois ses moments d'euphorie et en même temps ses moments de très grande fragilité. Est-ce qu'on peut avoir des éléments de réponse, Thérèse Rebien?
Oui, alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, la volatilité sur les marchés financiers, elle est très importante pendant la crise sanitaire. Et elle est liée au fait que les individus ou les entités qui craignent la crise économique ou en tout cas un rebond du Covid cherchent des valeurs refuges. Donc là en l'occurrence on est en train de parler des marchés financiers, mais c'est vrai également pour le cours de l'or. Donc le cours de l'or qui n'a jamais été aussi élevé. Donc on a cette volatilité des marchés financiers et en l'occurrence quand on voit un accroissement des placements sur les marchés financiers, rien ne dit que ce soit lié à l'action de Donald Trump.
Il y a évidemment cette recherche de valeur refuge, comme vous dites, Christine Zumello, mais il y a aussi quelque chose qui s'appelle la politique monétaire. Il y a eu ces derniers mois une politique monétaire particulièrement accommodante qui a permis de déverser comme ça des milliards de dollars sur les marchés. Et ça, évidemment, les marchés adorent. Est-ce qu'on peut se pencher un tout petit peu sur l'action de la Fed ces derniers mois? On sait bien sûr combien les tensions étaient fortes entre Donald Trump et le président de la Fed, dont j'oublie là tout de suite le nom, Jerome Powell, qu'il avait pourtant nommé. Les relations étaient extrêmement difficiles. Quelle a été justement l'action de cette Fed sur ces derniers mois?
Alors, Trump trouve aujourd'hui que la Fed est revenue à la raison, voilà, et qu'elle accepte finalement de baisser ses taux d'intérêt, donc de proposer une politique monétaire encore plus accommodante, encore plus souple, qui est une mesure de relance assez classique. Hein. Donc là aussi, Trump au fond n'y est pour rien dans cette nouvelle direction nouvel assouplissement de la Fed, puisque cette direction est prise déjà depuis la crise de 2008. Donc Trump n'y est pour rien.
Sauf que c'est lui qui l'a nommé le patron de la Fed quand même.
Enfin, il l'a nommé et il faut aussi l'assentiment du Sénat. Donc toutes les propositions de directeur de gouverneur de la Fed des présidents américains ne sont pas forcément avalisées par le Sénat. Ça a été le cas de Jerome Powell. Mais il y a eu une guerre très forte, je crois qu'on l'oublie aujourd'hui, les premières années de gouverneur de Jerome Powell ont été, il a fait l'objet de très fortes attaques de Donald Trump qui le traitait de colombe, de softie, de mou, de ramollo, selon ses termes, puisque il avait, selon Trump, une politique monétaire qui n'allait pas assez dans le sens de la relance.
Il a dit, par exemple, Thérèse Rebière, ça c'était en mars dernier, Donald Trump, que Jerome Powell avait relevé les taux trop rapidement et les avait baissés trop tard. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer et est-ce que c'est une critique justifiée?
Sur l'aspect de la justification de la critique, je ne m'avancerai pas sur ce point. En revanche, effectivement, la Fed a un double rôle, celui de à la fois maîtriser l'inflation et puis celui de s'assurer de la croissance économique. Donc, pour relancer l'activité économique, une des solutions, c'est effectivement d'accroître la masse monétaire. Donc c'est une politique conjoncturelle classique. Mais cette relance par l'accroissement de la masse monétaire a pour inconvénient qu'elle relance aussi l'inflation. Donc le rôle de Powell à la tête de la Fed, c'est de s'assurer que il est bien au juste milieu entre ces deux points. Et lors de la crise sanitaire, le focus s'est déplacé de l'inflation, dont on ne sait pas finalement encore bien, que ce soit aux États-Unis ou en France, si elle sera positive ou négative. Ou bien s'il n'y en aura pas, ou en tout cas d'effets supplémentaires, mais vers la croissance économique. Donc ça donne un argument effectivement à Donald Trump en disant finalement la Fed est l'allié du gouvernement fédéral.
Christine Zumello, il y a un point qu'on n'a pas encore abordé, c'est la question de la dette, parce que les plans de sauvetage dont on a parlé depuis le début de cette émission, ça coûte évidemment beaucoup d'argent, et donc ça va creuser la dette de l'État. Selon les derniers calculs, pardon, j'ai un peu de mal ce matin, un peu fatigué, de l'agence bipartisane du Congrès, qui est le bureau du budget du Congrès américain, la dette devrait s'élever à 104,4% du PIB en 2021. C'est le taux le plus élevé depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. À titre de comparaison, j'ai regardé hier, il y a 10 ans, on était à peu près à 60% du PIB du pays. Il y a plusieurs choses. D'abord, est-ce que vous trouvez surprenant que aujourd'hui on dépense en réalité sans prendre soin de cette dette? Au fond, tout le monde a bien compris que l'urgence économique est telle que de toute façon, laissons filer la dette, c'est pas grave. Et jusqu'où c'est pas grave? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où précisément ce surendettement risque pas de poser problème, Christine Zumello?
Oui, mais la question que vous posez, c'est la question que se posent tous les sénateurs et tous les députés à l'Assemblée nationale aux États-Unis, à la Chambre des représentants. C'est-à-dire, chaque année, il y a une bataille très dure entre les uns et les autres pour savoir si on augmente le plafond de la dette, et donc il faut que ce soit le Congrès qui accepte cette augmentation. Et ça donne vraiment lieu à des batailles épiques où on a des government shutdowns, c'est-à-dire que pendant un certain nombre de semaines, de jours, qui peuvent durer longtemps, etc. Donc c'est vraiment une question centrale. Il n'y a pas de réponse rationnelle selon Donald Trump, puisque ce n'est pas quelqu'un, pourrait-on dire, de rationnel au sens ni politique ni économique. Et donc on voit, à la fois en ce qui concerne la Fed, à la fois en ce qui concerne le rôle de l'économie, à la fois en ce qui concerne le plafond de la dette, c'est quelqu'un qui s'adapte. Voilà, c'est quelqu'un qui modifie les choses, qui argumente suivant, pourrait-on dire, le sens du vent qu'il ressent, et pour lequel d'ailleurs il est assez habile, puisqu'il a réussi à surfer sur un certain nombre d'arguments qui l'ont mené à la présidence.
Thérèse Rebière, sur cette question de la dette.
Oui, sur cette question de la dette, en fait, il faut rappeler que la dette américaine n'est pas tout à fait structurée comme la nôtre. Et différence assez importante, c'est qu'il y a une grosse partie de la dette américaine qui est détenue par les Américains eux-mêmes. Donc en 2017-2018, on était à 60% de la dette qui était détenue par les Américains eux-mêmes.
Donc c'est moins grave.
Si vous vous endettez vous-même et que vous êtes vous-même que vous remboursez vous-même votre propre dette, c'est moins grave que si elle est détenue par l'étranger, parce que vous n'êtes pas sensible aux pressions internationales.
Bon, donc tout va bien.
Alors
c'est difficile. N'est pas un problème.
C'est difficile de dire. En fait, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, jusqu'où on peut aller, et actuellement on ne le sait pas. En revanche, il y a quand même quelque chose qui n'est pas complètement faux, ce serait de dire que c'est moins grave pour les Américains, peut-être, que pour nous, Européens. Pourquoi ? Parce que les Américains, depuis longue date, ont une monnaie forte qui est quand même une monnaie de référence. Et donc ils ont davantage de flexibilité sur ces outils-là.
On est avec vous, Thérèse Rebière, et vous, Christine Zumello, dans cette série consacrée aux États-Unis. Aujourd'hui, nous parlons d'économie. America Rich Again, c'est la question qu'on se pose. Alors, on a beaucoup parlé de Donald Trump. On va s'intéresser maintenant à son rival. Qu'est-ce qu'il a prévu, justement, pour relancer, redresser l'économie? On va s'y intéresser dans un très court instant. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Pour faire face aux défis d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas simplement reconstruire comme c'était avant. Nous devons reconstruire mieux. Nous lancerons le plus gros plan d'investissement dans l'industrie et l'innovation depuis la Seconde Guerre mondiale, en ramenant de nombreuses chaînes de production pour nous assurer que le futur sera construit en Amérique par les travailleurs américains. Aujourd'hui, l'investissement fédéral dans la recherche et l'innovation est au plus bas. C'est pourquoi je propose un investissement historique dans la recherche et le développement pour renforcer la compétitivité américaine dans toutes les industries.
Voilà, pas seulement reconstruire, mais reconstruire mieux, dit Joe Biden. Mais comment est-ce qu'il compte s'y prendre? On va retrouver tout de suite Célia Belin depuis Washington. Bonjour, vous êtes chercheuse invitée à la Brooklyn Institution de Washington. Vous avez signé récemment des démocrates en Amérique. L'heure des choix face à Trump, c'était chez Fayard. L'urgence justement pour les démocrates et pour Biden en particulier, Célia Belin, c'est de répondre à l'urgence économique et sociale qui découle de cette crise sanitaire. Quel est son plan précisément sur ce point-là en particulier, Célia Belin, et en quoi est-ce qu'il se distingue des réponses qui ont été apportées par l'administration Trump?
ce qui distingue fondamentalement Joe Biden de Donald Trump dans l'approche économique en ce moment, c'est que Joe Biden et les démocrates sont convaincus qu'il faut d'abord maîtriser la pandémie, alors que Donald Trump pense qu'on peut vivre avec cette pandémie et relancer l'économie sans forcément en maîtriser tous les contours. Et donc Joe Biden, on le voit bien dans tous ses discours de campagne, en disant la première chose à faire, c'est de maîtriser la pandémie. Et donc pour ça, il a un plan qui consiste à étendre le nombre de tests, à rendre le port du masque obligatoire sur l'ensemble du territoire, mais aussi à soutenir les autorités locales, ou encore il soutient aussi des arrêts maladie payés pour que les gens qui ont le Covid puissent rester chez eux. Et donc il y a un certain nombre de mesures qui sont les premières mesures avant même de commencer à parler de reconstruction et de reprise économique.
Oui, c'est-à-dire que la principale différence, c'est qu'au fond, il veut faire une politique de la demande, quand Trump, lui, veut faire essentiellement une politique de l'offre. C'est-à-dire qu'il veut concentrer les investissements sur les ménages pour dynamiser la consommation. Il y a maîtriser la pandémie, et puis il y a après, le slogan de Biden, c'est « Build back better », reconstruire mieux. Ça veut dire quoi concrètement ?
Alors, ce qu'il veut qu'on entende par ce slogan, c'est en fait à la fois pouvoir rassurer les Américains qui seraient plus au centre, plus indépendants, plus proches des Républicains, en disant « on va reconstruire, on va faire en sorte de surmonter ce moment angoissant pour tout le monde ». Mais il ajoute « better », mieux reconstruire, parce qu'en fait, il veut que sa base progressiste et plus à gauche entende que la reconstruction ne se fera pas sur la base de l'État précédent. Parce que Donald Trump avait beau jeu de dire que tout allait bien avant la pandémie, en réalité, on avait une croissance des inégalités très forte aux États-Unis, et notamment dû au fait que les salaires étaient stagnants pour la classe ouvrière et la classe moyenne depuis des décennies maintenant, alors que les coûts de la vie ne faisaient qu'augmenter. Et donc, quand il veut reconstruire mieux, il va d'abord donc reconstruire, c'est des investissements publics pour remettre les gens au travail, c'est une politique de réindustrialisation, c'est de l'investissement en recherche et développement, etc. Mais il veut reconstruire mieux, c'est-à-dire que il propose un certain nombre de mesures qui cherchent à rétablir, à compenser, non seulement à compenser ces inégalités, mais à arrêter de les produire. Donc ça passe par une hausse du salaire minimum, par exemple, à $15. Ça passe par de l'investissement dans l'éducation supérieure, dans ces universités qui sont devenues beaucoup trop chères, ou encore une baisse de la dette étudiante. Donc il y a un certain nombre de mesures qui sont au cœur des demandes de la gauche progressiste américaine qui se retrouvent dans ce slogan de Build Back Better.
Mais alors, Célia Belin, tout ça c'est formidable, sauf que ça coûte de l'argent. L'une des actions marquantes de Donald Trump pendant ces 4 dernières années, c'est la baisse des impôts, et en particulier les impôts sur les sociétés. Du côté de Biden, qu'est-ce qu'on compte faire ? On va augmenter les impôts, forcément, pour financer tout ça, mais dans quelle proportion, jusqu'où ?
Alors, Joe Biden l'a dit, il veut revenir sur une partie des baisses d'impôts qui ont été votées à l'ère Trump, parce qu'il dit que ça favorise évidemment les plus hauts revenus et que c'est une politique qui aujourd'hui n'a plus de sens et qu'il va falloir investir à partir de la base et surtout relancer la consommation qui est le cœur du moteur de l'économie américaine. Mais il n'y a pas de limite et il y a très peu de chiffrage en termes de maintien d'un budget qui serait raisonnable. Et ce qui inquiète un peu une partie des experts, c'est qu'il y aura forcément un moment où, malgré toutes ces promesses, il y aura nécessairement un regard à apporter sur le budget et la dette américaine qui s'envole, alors qu'il y a des promesses d'investissement, par exemple, sur le climat, qui sont extrêmement élevées, de l'ordre de $2 000 milliards que Joe Biden veut consacrer à l'action climatique.
Mais au-delà de la contrainte budgétaire pure, on imagine par exemple qu'il va augmenter les impôts pour les plus grosses fortunes, qui par ailleurs se sont assez largement engraissées depuis le Covid. Je pense à des milliardaires comme Jeff Bezos et Elon Musk. Alors évidemment, il y en a probablement bien d'autres, ce sont deux parmi d'autres, mais eux ont gagné en réalité de l'argent depuis le déclenchement de la crise sanitaire. On se dit qu'il va augmenter les impôts pour ces plus riches.
Oui, ça, il l'a promis, il l'a dit. En particulier, évidemment, Jeff Bezos attire toutes les hostilités de la gauche progressiste, puisqu'il se vante de ne pas payer le moindre impôt. Et donc, il y a un mouvement actuellement, non seulement de rétablissement d'un impôt juste, mais également un mouvement et une réflexion sur l'antitrust et sur le fait qu'il va falloir peut-être démanteler une partie de ces géants, ou en tout cas lutter contre le fait qu'il y a de l'évasion fiscale. Et là, c'est pas quelque chose sur lequel Joe Biden revient beaucoup. Il reçoit quand même pas mal d'argent de donations de Wall Street et de la Silicon Valley. À ce moment-là, c'est pas le moment où il va mettre un chiffre sur la manière dont il va imposer, taxer les plus hauts revenus. Ce qu'il dit, c'est qu'il va revenir sur les baisses d'impôts de l'ère Trump pour pouvoir baisser les impôts pour le coup des plus pauvres. Mais ce n'est pas non plus un argument qui aujourd'hui fonctionne aussi bien que, par exemple, l'augmentation du salaire minimum.
Célia Belin, vous avez évoqué la question de l'environnement. On sait combien Trump est un climato-sceptique. Il s'est régulièrement illustré en la matière, de façon d'ailleurs assez outrancière. On l'a encore vu récemment lors de son déplacement en Californie, au cours duquel il a tout simplement expliqué qu'il pensait que tout ça allait finir par se refroidir. Donc, pas de problème, on se calme. Biden, lui, est évidemment beaucoup plus sensible à la question climatique. Comment est-ce qu'il compte intégrer cette donnée dans son logiciel économique? Quel est son plan en matière d'énergie, en matière de transport? Qu'est-ce qu'il promet?
Alors d'abord, Joe Biden était vice-président au moment de la signature de l'accord de Paris sur le changement climatique et on sait que lui et toute l'administration Obama se sont fortement impliqués dans la diplomatie climatique. Il est personnellement convaincu du combat et il a derrière lui toute une jeune génération qui est extrêmement mobilisée sur l'action climatique et qui sera en partie celle qui va se déplacer pour aller voter pour lui au mois de novembre. Donc, il a intégré cette contrainte et cette mobilisation, notamment dans le grand document qui est sorti, un document qui est une composition entre les positions de son camp plus modéré et les positions de la gauche progressiste. Et là, ça va consister à remettre une grande partie des régulations qui ont été détruites par l'administration Trump sur, par exemple, l'efficacité énergétique des bâtiments ou autres. Il y a aussi un investissement qui est très propre à Joe Biden, qui lui tient à cœur, qui va être un investissement dans le rail, dans le transport ferroviaire, puisque lui est un grand usager du transport ferroviaire qu'il a utilisé pendant près de 30 ans de manière quotidienne. Sur la grande question en ce moment de la Californie qui brûle, l'Oregon qui brûle et cette catastrophe naturelle, il le lie directement à son plan d'action climatique, alors que Donald Trump, comme sur toutes les autres catastrophes naturelles, que ce soit les ouragans, les inondations, il décorrèle totalement la catastrophe naturelle de l'action climatique.
Ouais, le plan énergie dont vous parliez, le Clean Energy Future, 2000 milliards de dollars sur 4 ans, c'est un peu moins que ce qu'avait prévu l'aile gauche du Parti démocrate, hein, parce qu'on était quasiment à, pas tout à fait 4 000, mais 4 000 milliards de dollars presque. Quand Obama était arrivé à la Maison-Blanche, il avait fixé comme priorité numéro 1 la réforme de la santé. C'est vrai que c'est un effort qu'il a porté tout au long de ses mandats. Ça a vraiment été le grand marqueur politique de son passage à la Maison-Blanche. Est-ce que vous pensez que pour Biden, ça sera l'environnement? L'environnement sera à Biden ce que la santé a été à Obama?
J'en suis pas totalement sûre, parce que d'abord, c'est pas comme ça qu'il le présente. Sa priorité sera nécessairement sur le Covid et la maîtrise de l'épidémie ici. Il faut voir qu'il y a une grande partie de l'activité américaine qui ne peut pas reprendre parce que il y a encore dans de très grands nombres de comtés, les écoles sont encore fermées, les gens sont encore chez eux. On n'est pas à un stade de réouverture similaire à celui de la France. Donc je pense qu'entre la crise pandémique, la crise économique immédiate et puis la crise raciale avec quand même quelques sujets de disparité raciale sur l'entrepreneuriat, sur la santé, sur le logement. Il va falloir s'occuper de tout ça à la fois. Ouais. Donc l'action climatique, ça n'en sera qu'une part.
Oui, c'est vrai qu'il y a quelques sujets sur la table. Célia Belin, peut-être toute dernière question. Les accords commerciaux, quand Trump est arrivé à la Maison-Blanche, il s'est empressé de déchirer l'accord de partenariat transpacifique négocié par son prédécesseur. Alors, on sait évidemment qu'il a à peu près tout fait pour effacer d'une certaine manière l'héritage de Barack Obama, mais dans le même temps, justement, son administration a signé ou révisé d'autres accords commerciaux avec le Canada et le Mexique, avec la Corée du Sud, avec la Chine. Il y a eu cet accord quand même commercial préliminaire en début d'année, même si on attend d'autres choses. Il y a des discussions en ce moment avec l'Union européenne, avec la Grande-Bretagne. La posture de Biden, laquelle sera-t-elle? Est-ce qu'il va également chercher à signer des accords commerciaux? Et est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura des différences de nature entre ce qu'il pourrait, lui, engager et ce qu'a négocié Trump ces quatre dernières années?
Alors là, la philosophie politique entre les deux hommes n'est pas si éloignée. On est quand même à un moment où à la fin de l'administration Obama, l'Amérique s'était rendu compte, ou en tout cas avait intégré les contraintes et les difficultés de ces grands accords méga régionaux qui avaient été négociés pendant l'administration Obama. En fait, il y a une très forte critique de la gauche démocrate sur ces accords qui sont défavorables à la classe ouvrière américaine, qui délocalisent les emplois. Donc, Joe Biden s'est engagé à reprendre des conversations commerciales, mais avec des représentants des syndicats, avec des gens qui ont à cœur les standards environnementaux, le droit du travail. Et donc, il y a un niveau d'exigence pour ces grands accords commerciaux qui vont les rendre quand même difficiles à passer. Et je pense qu'en fait, il y a des chances qu'il essaie de construire sur ce que l'administration Trump a laissé, aussi insatisfaisant que ce soit.
Merci beaucoup Célia Belin d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes chercheuse invitée à la Brookings Institution de Washington et que vous avez signé en mars dernier chez Fayard, des démocrates en Amérique, l'heure des choix face à Trump. On arrive presque au terme de l'émission. Peut-être un mot de réaction de Thérèse Rebière et Christine Zumello avec nous en plateau. Thérèse Rebière, pour commencer peut-être, sur ce que sera le programme finalement économique de Biden.
Oui, vous avez posé la question de la priorité à l'environnement. Effectivement, Christine Belin vous indiquait que ce n'était pas forcément une des priorités. Alors, il y a une bonne raison à cela, hein, c'est que si on considère par exemple les énergies vertes, qui fait partie du programme de Joe Biden, eh bien, les États-Unis sont le premier producteur mondial de gaz et de pétrole. Donc, c'est la première industrie devant l'Arabie Saoudite. Et donc, on peut discuter des chiffres de l'emploi, mais en revanche, ça comprend quand même un volume d'emploi important et c'est la raison pour laquelle se passer des énergies fossiles n'apparaît pas dans le programme de Joe Biden.
Christine Zumello.
Moi, je voudrais peut-être dire une chose qui paraît extrêmement simple, mais je crois qu'il faut rappeler, c'est que Biden a besoin de trouver des raisons qui pousseraient les électeurs à voter pour lui et non pas à voter pour lui parce qu'ils ne veulent pas voter pour Trump. C'est-à-dire, le vote Biden, ça ne peut pas être qu'un vote contre Trump. Et je crois que c'est sa grande difficulté aujourd'hui, c'est d'avoir un programme suffisamment clair, avec des grandes lignes de force, qui inciterait, qui donnerait envie aux électeurs américains de dire « je vote Biden » et non pas « je vote contre Trump ». Voilà. Et donc, c'est pour ça que l'écart entre les deux candidats aujourd'hui, il n'est pas si grand, et en tout cas, dans certains états clés, il n'est pas significatif, et c'est pour ça que il faut absolument se prémunir de toute prédiction pour ou contre l'un ou l'autre des candidats.
Merci beaucoup à vous, Thérèse Rebière, d'abord, d'avoir été avec nous ce matin. Merci infiniment également à Christine Zumello. Vous aviez un tout dernier mot, Christine Zumello ?
Oui, il me semblait, quand on arrive en fin de semaine, que c'est la rentrée, que la situation est extrêmement critique, qu'on pouvait peut-être se rappeler d'un grand poète américain qui s'appelle Walt Whitman et qui a écrit un poème en 1884 qui s'appelle Election Day, le jour de l'élection, puisque la campagne présidentielle de 1884, donc fin du 19e, a été extrêmement acerbe, extrêmement difficile. Et donc ce poème que j'invite tous vos auditeurs et vous peut-être aussi à relire, parle en fait de la signification du jour de l'élection en novembre aux États-Unis. Et en 10 ans, Whitman dit que c'est quand même, ça fait partie d'une des grandes beautés, d'une des grandes richesses de l'Amérique, au même titre que les grandes prairies, les grands parcs naturels, Yosemite. Donc je crois que ce qui est en jeu aujourd'hui aux États-Unis, c'est vraiment la démocratie, c'est la valeur de ce jour qui désignera le prochain président des États-Unis, avec toutes les incertitudes qui plane encore aujourd'hui sur le lendemain de l'élection.
Ouais, parce que justement, ce ne sera peut-être pas le jour où on saura qui lui succédera. Il faudra peut-être attendre un autre mois que le mois de novembre, malheureusement. Merci beaucoup, en tout cas, à toutes. On retrouve tout de suite Brice Couturier, le Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Depuis lundi, vous nous parlez de QAnon, ce groupe conspirationniste qu'on trouve aux États-Unis. On pourrait considérer ses adeptes comme des doudingues, tels qu'il en a toujours existé et comme les réseaux sociaux les ont fait proliférer, Brice.
Oui, certes, mais ça serait passé à cause du danger bien réel que ces théories complotistes représentent pour nos démocraties. Parce que celle-ci repose en effet sur un certain nombre d'évidences partagées, sur un minimum de confiance envers les institutions et entre les citoyens eux-mêmes. Lorsque ces socles sont minés, on est menacé par ce que Yascha Mounk a baptisé la déconsolidation démocratique. Que nous arrive-t-il à nous, habitants d'un monde commun, qui ne paraît plus être un monde en commun ? Interroge Nancy Rosenblum et Russell Muirhead, deux spécialistes des théories complotistes. La désorientation, le sentiment qu'aucune description d'un fait ou d'un événement n'a suffisamment de valeur épistémologique pour qu'on puisse y souscrire absolument, arrange bien les dirigeants populistes. Elle leur permet de présenter leur version des faits, aussi alternative qu'elle soit, comme aussi valable que n'importe quelle autre. La démocratie a besoin de rambardes de sécurité, écrivent-ils encore dans leur ouvrage « A lot of people are saying ». Or, les entrepreneurs en conspiration, comme ils les appellent, s'évertuent justement à les démanteler. Dès lors qu'on dépeint ses opposants comme des criminels qu'il faudrait jeter en prison, le dialogue démocratique s'avère compromis. On ne discute pas avec des criminels, on les combat. Et leur victoire électorale est alors considérée comme une trahison nationale. On ne s'étonnera pas si une telle perception, dès lors qu'elle est répandue dans un public suffisamment large, pousse certains à la violence. Donald Trump a déjà prévenu ses partisans que son probable échec électoral en novembre ne pourrait être attribué qu'à des fraudes. Dans un pays surarmé comme les États-Unis, qui sait à quelles extrémités ces théories complotistes propagées par le président sortant en personne pourraient pousser certains fanatiques en cas de non-réélection.
Bon, et alors Brice, que peut-on faire pour protéger nos institutions démocratiques de ce genre de danger ?
La première possibilité, c'est de ne rien faire du tout. Miser simplement sur le fait qu'à l'heure d'Internet, une rumeur en remplace vite une autre et que le public trouve toujours de nouveaux sujets de distraction. Après tout, pour beaucoup de gens, il ne s'agit que d'un jeu, on l'a dit, et ils y croient sans y croire. Mais Anheuser et Rummele estiment que ce n'est pas tenable. Trop de dégâts à l'encontre de l'esprit public. Alors ce qu'ils préconisent, une meilleure supervision, une gouvernance indépendante et une application renforcée des lois. La surveillance des sites web, des réseaux sociaux, des organes d'information permettrait de déceler dès leur naissance la formation des rumeurs complotistes. Le rêve d'une instance rigoureusement indépendante des gouvernements de surveillance de l'Internet contredit pourtant frontalement l'idéologie libérale qui animait les créateurs du réseau numérique mondial. Et les sites de fact-checking eux-mêmes ont été bien des fois pris en flagrant délit de biais idéologiques. Car comment concilier l'existence d'une telle agence, surtout si elle est dotée de réels pouvoirs, avec le pluralisme d'opinion, la liberté d'expression et l'égalité entre les participants au débat, qui ont été les principaux apports d'Internet à notre modernité démocratique. Pourtant, face à la délégitimation des discours d'expertise, à la méfiance entretenue envers les élites du savoir et du pouvoir, il n'y a pas de recette magique. Surtout lorsque cette mise en cause provient du plus haut niveau, de la présidence elle-même, comme c'est le cas non seulement aux États-Unis, mais dans plusieurs autres pays. Selon Uchinski, les politiciens sont devenus de nos jours les principaux pourvoyeurs de théories conspirationnistes. Ils sont relayés par des puissances étrangères qui ne se privent pas de contrôler étroitement chez elles l'usage de l'Internet, tout en utilisant la liberté dont Internet jouit chez leurs adversaires libéraux pour les déstabiliser. C'est le rôle de campagne de désinformation relayée par de très puissants moyens. Contrairement à ce que l'on a cru au départ, il s'agit moins de favoriser le candidat que la Russie, la Chine ou l'Iran jugent le plus propice à leurs intérêts qu'à semer le trouble et la désorientation, à créer le chaos en aggravant les clivages qui fragilisent de l'intérieur nos régimes bâtis justement sur l'idée de pluralité des offres politiques et de concurrence entre elles. Le politologue britannique David Runciman, auteur d'un essai consacré au péril dont nos démocraties pourraient bien finir par mourir, How Democracy Ends, suggère, je cite, que la diffusion des théories conspiratives est le symptôme de notre perplexité croissante à propos de la réalité elle-même.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture ainsi que toutes les chroniques consacrées justement donc à ce groupe QAnon dont vous avez parlé cette semaine. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.